Paso doble.
Paso doble.
Mercredi, cinéma.
Bonjour tout le monde, notre réveil sera rock aujourd'hui. 6 ans après sa présentation à Cannes, le documentaire Rock and Roll of Course trouve enfin un distributeur. On va pouvoir enfin le voir à partir d'aujourd'hui dans quelques salles, quelques précieuses salles dans les principales villes françaises. Le film est rock and roll assurément, mais il est d'abord Rock and Roll of Course, Corse, comme le pays d'Henri Padovani. Personnage central de ce documentaire, un jeune Corse qui va à 24 ans débarquer à Londres l'hiver 1976. Il va être là où il faut, au bon moment, pour vivre la dernière grande révolution du rock, le punk. Et les deux réalisateurs de ce documentaire, Lionel Gage et Stéphane Bébert, sont avec nous aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour Toufik.
Bonjour.
Alors, comment vous êtes tombé d'ailleurs dans cette histoire, quand vous avez découvert l'histoire d'Henri Padovani? Il y avait un livre déjà, hein. Il avait déjà raconté son histoire, je crois.
Il y avait un livre, absolument. Ouais. Moi, je l'avais pas lu. Je l'avais fait cadeau à Lionel pour son anniversaire. Lionel est mon cousin. Donc, c'est une affaire de famille. Mais moi, je suis musicien et je suis fan de Police depuis l'âge de 14 ans. Je les avais vus à Fréjus en 83 dans la tournée Synchronicity. Et quand Police est reformée, j'avais lu sur un blog, sur MySpace, qu'Henri parlait de toute cette époque, de la chance qu'il avait eue d'être dans Police, même une seule année, et qu'il n'avait jamais nourri ni rancœur, ni regret, et qu'au contraire, ce passage en Police avait changé sa vie. Et je me suis dit, ben tiens, ce serait peut-être pas mal de raconter l'histoire de ce jeune Corse parti pour 15 jours et qui finalement va rester 7 ans en Angleterre. Mmh.
Et fondé effectivement Police, bah oui, en 77.
Il était là avec Stewart avant que Sting arrive, avec Stewart Copeland, le batteur. Et donc j'ai appelé Lionel, qui était sur Paris. Je lui ai dit, voilà, essaie de rencontrer Henri, vois s'il veut qu'on raconte son histoire. Et c'est vrai que j'avais imaginé que peut-être Police l'inviterait au Stade de France quand il viendrait jouer en concert. Et c'est ce qui s'est passé quelques mois plus tard. Donc on était là, on a eu la chance d'être avec eux pendant 2 jours et de vivre ces retrouvailles sur scène.
Et vous, donc, vous allez revivre avec 20 ans d'écart cette effervescence londonienne des années 70-80.
C'est un petit peu sur l'instinctif, hein, que ça se joue. Quand on rencontre Henri, on comprend tout de suite que on va pas être dans une organisation extrêmement bordée et cadrée. En revanche, on sait que les rencontres et la façon dont les choses vont se dérouler vont forcément être passionnantes, parce que on va se retrouver dans une espèce de période qui ne se termine jamais, c'est-à-dire que on a l'impression que ces gens-là, et quand je dis ces gens-là, c'est Henri et tous ses amis. Henri et tous ses amis, c'est une partie des Clash, une partie des Sex Pistols, évidemment les membres de Police, et tout un tas de groupes londoniens et un peu plus, quelque part ne se sont jamais séparés. Ou en tout cas, ont vécu quelque chose qui est suffisamment fort pour faire en sorte que ce lien indéfectible reste présent éternellement.
Mais vous étiez déjà passionné par cette scène rock et vous avez trouvé merveilleux qu'un Français ait pu avoir un rôle à jouer, parce que c'est ça que vous racontez dans votre documentaire. Il était là, mais il n'était pas là seulement en tant que musicien ou fan de groupe. Il était aussi à l'origine de la formation de groupe. Il va même devenir manager ensuite. C'est ça qui vous plaisait?
Alors, je pense que Stéphane et moi, on a, ouais, c'est aussi ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas forcément toujours le même ressenti des choses. En revanche, ces choses-là se complètent. Moi, par exemple, personnellement, une des choses qui m'intéresse et qui m'intéressait le plus, c'était l'histoire de l'homme, alors qu'il soit français ou grec, en l'occurrence. Ça a du sens pour moi parce que je suis français aussi. Mais dans l'absolu, c'est de me dire qu'un jeune mec peut débarquer quelque part comme ça et par son attitude et sa volonté et son envie, en faire de sa passion sa vie. Et ça, je trouvais que cet élément-là était, moi en tout cas, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, l'élément de cette volonté, quelque part, de se dire que les choix que l'on fait dans la vie déterminent avec une force certaine la façon dont on évolue et la façon dont on sera 40 ans plus tard. Donc ça, c'est vraiment un élément qui, pour moi, était important, et j'ai l'impression, j'espère, que c'est une des choses qu'on arrive à ressentir en regardant le film.
Ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas débarqué nulle part, il débarque surtout à Londres, et je crois que culturellement parlant, les Anglais ont une approche qui n'est pas la même que la nôtre. Quand quelqu'un arrive, même sans le connaître, même sans savoir si c'est un bon guitariste, pas un bon guitariste, si la personne est là et a envie de jouer, envie d'être dans la bande, il y a une acceptation. Alors après, Henry est un personnage super parce que voilà, il a eu mille vies en une. C'est quelqu'un qui vous raconte toujours, enfin en tout cas aujourd'hui, une anecdote sur le passé. Je pense qu'à l'époque, il devait raconter d'autres choses. Mais bon, c'est quelqu'un de vraiment très avenant, très agréable. Donc je pense que c'est sur l'amitié aussi que ces rapports-là se sont basés au départ. Et avec cette légèreté qu'ont les musiciens de pas juger forcément les gens par rapport à leur CV, et en se disant bah tiens, t'es là, tu joues de la guitare, ok, je fais un groupe, tu veux faire le groupe avec moi. C'est ce que lui a dit Stewart. Je pense que tu repartais encore. Je dis non, moi je suis là. Il dit bah écoute, il y a un bassiste qui doit venir que j'ai vu à Newcastle. On va faire un groupe, ça s'appellera Police. Et parce qu'après il jouait, qu'il était là et qu'il était cool, ils ont fait ça. Et c'est vrai que 30 ans plus tard, quand ils se retrouvent, rien n'a changé parce que ils ont connu ces moments-là où tout commençait, la galère ensemble, quand Henry remplissait le frigo de Sting, qui venait d'avoir un petit gamin. Ils ont pensé la musique parce qu'à cette époque-là, leur but c'était pas de gagner de l'argent, c'était pas d'avoir du succès. D'ailleurs, c'était pas ça le courant dominant. C'était surtout de jouer ensemble, de prendre du plaisir, de faire des concerts. C'est pour ça que toute cette scène-là, dès qu'un groupe réussissait, ben, tout le monde était content pour lui, tout le monde se soutenait. Police allait jouer en première partie après The Wayne Counties, Electric Chair, le groupe dans lequel atterrit Henry. Je pense qu'il y avait vraiment un vrai partage et une solidarité qui s'est peut-être un peu malheureusement perdue avec le business dans la musique et avec une autre approche. Enfin, j'espère que c'est pas complètement fini, mais en tout cas je pense qu'ils ont été là à un moment particulier de la musique et dans un endroit particulier. Je crois que
vous auriez aimé connaître tous les deux.
Moi oui. Alors moi je suis encore plus jeune que Stéphane, ce qui veut dire que par exemple quand Stéphane a vu Police en concert, moi j'étais à la maternelle, je crois.
Voilà, c'est ça.
Donc oui, forcément. Mais oui alors oui, j'aurais aimé la vivre, enfin en tout cas j'aurais aimé la connaître, et quelque part faire ce type de film me met dans une position dans laquelle finalement je n'en retire quasiment que le meilleur, et en étant comme ça distancié, donc je sais pas, il est fort probable que plus j'avance dans l'âge et plus je me dise que finalement la vivre par procuration comme tel que je l'ai fait et tel que j'espère continuer à le faire sur les prochains projets me suffit amplement.
En tout cas, vous racontez cette histoire comme si c'était une histoire rock. Hein. C'est vraiment une légende pour vous, Henry Padovani, un enfant du soleil, c'est-à-dire le père était en Algérie, il naît sous le soleil de Corse, il va quitter cette île pour une autre île qui, elle, est radicalement différente. Hein. Il n'y a plus de soleil, il n'y a plus de lumière, il va vivre la nuit. D'ailleurs, il a une phrase en disant qu'il faut vivre tard, c'est là où les choses se passent. Et il va rencontrer tout le monde, il a un certain charisme, et puis ensuite, comme toutes les légendes du rock, comme tous ces musiciens qu'il va côtoyer, qu'il va aider, avec qui il va jouer ou qu'il va juste accompagner, il aura aussi sa période de chute, quoi, parce qu'on va l'oublier, il va se retrouver aussi très seul, et ça aussi, ça fait partie de sa légende, et vous racontez ça.
C'est les parcours, ouais, hein. C'est un parcours... C'est sa vie, c'est une réalité. Forcément, oui, il s'est retrouvé seul. Et je pense que le type de personnalité telle que celle d'Henry sont aussi intéressantes dans ces moments-là, parce que là où on pourrait avoir une tentation de la rancune, peut-être un petit peu d'envie ou de jalousie ou de choses comme ça, lui se trouve pas dans cette position-là. C'est-à-dire qu'il estime que, je pense à juste titre, il estime que vivre déjà tout ce qu'il a vécu est une espèce de cadeau. Mmh. Et oui, parfois dans la vie, on a des moments qui sont un petit peu plus compliqués à gérer, que ce soit humainement, financièrement, enfin peu importe. En tout cas, voilà, c'est l'espace de notre vie humaine qui rend les choses comme ça. Et bien malgré ça, il reste quand même dans une espèce d'esprit positif en se disant bon ben une fois que je suis seul, ça c'est un moment qui est assez intéressant dans le film. Il dit ben je vais peut-être me remettre à des amours antérieurs. Donc je vais reprendre ma guitare, je vais commencer à jouer, je vais rappeler 2-3 amis, je vais voir comment ça va se dérouler. Et ce qui est beau aussi, c'est que finalement les amis répondent et ils répondent vite. Simplement en étant quasi enthousiaste et en disant mais c'est génial, faisons quelque chose ensemble.
Personnage vraiment très fort, très charismatique, qui aime ses amis parce que vous le décrivez très bien, vous le filmez très bien, il vous raconte très bien la vie, Henri Padovani, mais il fallait aussi dire quelques vérités autour de cet homme, et vous réussissez le pari, Lionel Gage et Stéphane Bébert, à dire que ce type charismatique, cette légende du rock, n'était pas non plus un grand musicien. Et que c'est pour cela, d'ailleurs, qu'il ne restera pas avec Police. Et ça, il faut le dire. Et il le dit lui-même. C'est ça qui est fou.
Il le dit parce qu'il a l'honnêteté de son histoire. Il sait qui il est. Il sait où il était. Et il est vraiment conscient que l'arrivée d'Andy Summers a changé l'histoire de Police, parce que Sting pouvait pas composer au départ du groupe les morceaux qu'il voulait parce qu'Henry ne pouvait pas les jouer. Et quand ils ont rencontré Andy Summers, il a vu là un allié musical. Sting venait du monde du jazz, il était contrebassiste dans un groupe de jazz, il avait déjà une connaissance musicale qu'Henry n'avait pas, il jouait 2-3 accords Henry. Et Andy Summers lui a permis justement de pouvoir commencer à composer les morceaux qui vont faire Police, et Henry est très lucide là-dessus. Il sait que sans Andy Summers, Police n'aurait pas eu l'histoire que ce groupe a connue.
Mais c'est pas trop cruel tout ça, parce que Henri Padovani est tout à la fois celui qui va faire que Police va se constituer comme groupe, et puis ensuite, quand Police va avoir la gloire méritée et la célébrité que l'on sait, il n'est pas là, il n'est pas partie prenante, parce que c'est avec un autre musicien que Police va percer, mais il sera une fois de plus dans l'histoire de Police, parce que c'est grâce à lui et grâce au disque qu'il va faire que les membres de Police vont se reformer.
Oui, je crois que, en fait, moi, je trouve pas ça cruel. Je trouve que il a eu la chance d'être là et de vivre quelque chose d'exceptionnel. Connaître un groupe qui commence à exister, qui peut-être peut devenir le groupe qui est devenu Police. Après ça, il a continué, il a toujours rebondi. C'est ce que on disait tout à l'heure. Même quand il était seul, il rebondissait déjà sur le projet suivant. Quand il a quitté Police, parce que Sting lui a dit voilà, il faut qu'on s'arrête, il est retourné en Corse quelques temps voir sa famille. Puis il s'est dit bon, allez, je repars à Londres, j'ai encore plein de trucs à faire. Et là, de suite, il a réenchaîné avec un groupe qui marchait très bien sur la scène londonienne, qui remplissait des salles que Police ne remplissait pas. Après, il est parti avec Kim Wilde en tournée. Après, il a rebondi en montant un label avec Miles Copeland, qui était le manager de Police et le frère de Stewart Copeland, qui est devenu un des plus grands labels rock de l'histoire. Ils ont eu des aventures incroyables. Ils ont signé REM. Enfin, il a connu des tonnes de groupes qui commençaient. Donc, je pense que
il a eu des problèmes avec Zucchero.
Oui, bon, après, il a été manager de Zucchero, mais ils ont quand même vendu 10 millions d'albums quand Henry s'occupait de Zucchero, qui n'arrivait pas à avoir une carrière internationale. Je crois que c'est cruel à la fois parce que oui, on peut se dire il est passé à côté, mais en même temps, c'était pas lui qui devait être dans Police pour que Police devienne ce qui est devenu Police. Donc, il était là, et s'il n'avait pas été là, peut-être que Police n'aurait pas continué pendant cette année de galère, parce qu'il a tenu la barque aussi avec Stewart pour continuer à motiver Sting, qui peut-être commençait à ne plus y croire. Donc, c'est tout ça qui fait que Police a existé. C'est aussi grâce à Henry que le groupe est ce qu'il est aujourd'hui. Et ça, je pense que les musiciens sont bien conscients, autant Sting que Stewart, autant Miles Copeland, leur manager. Il y a ce truc-là qui a pas disparu.
La preuve, ils ont tous accepté de témoigner dans votre film. Voilà, on entendait bien Sting dire Henry, et c'est bien sûr Henri Padovani. D'ailleurs, c'est le seul enregistrement qu'ils vont laisser ensemble, non?
C'est le premier 45 tours.
C'est le premier 45 tours, ils en ont deux, puisqu'il y a donc la phase B, avec Nothing Achieving. Tube gigantesque, hein, comme on le sait tous, vendu à très peu d'exemplaires.
Mais il est sorti 5000 exemplaires en 45 tours, et j'en ai acheté un quand j'étais bien plus jeune. J'étais monté à Paris l'acheter, et à l'époque il coûtait 500 francs, et mes potes m'avaient dit mais t'achètes un vinyle, un 45 tours, 500 francs. Je leur ai dit oui, mais il n'y en a que 5000 exemplaires. Et donc voilà, moi je connaissais l'histoire d'Henri à partir de ce moment-là, de ce premier 45 tours qui pour moi représentait un moment du rock et de mon groupe préféré. Et donc voilà, quand on a eu la chance de rencontrer la personne qui avait financé justement ce disque, qui était un ami d'Henri, qui lui a présenté Stewart Copeland, Paul Mulligan. Et ben j'ai emmené le 45 tours en disant voilà, moi je l'avais acheté, c'est lui qui l'avait financé.
Voilà. Et tous ses amis ont accepté de témoigner dans Rock and Roll of Course. Ils sont tous là.
Ils sont quasiment tous là.
Bah oui.
Quasiment tous là.
Enfin, ceux qui sont vivants sont là.
Et oui. Pour la plupart, après, c'est dans les forcément toujours. Il y a plein de gens hein, qui traversent comme ça la vie d'Henri, parce que c'est le type de vie qui est tellement riche, avec tellement d'anecdotes, tellement d'histoires, d'enregistrements ratés, pas ratés, organisés, non organisés, avec des moments complètement surréalistes, etc. Que même ceux avec qui on n'a jamais pu nous connecter, en tout cas faire une interview, ou en tout cas se poser, aller les voir, les rencontrer, on a toujours gardé le contact très longtemps en disant mais s'il y a encore une opportunité de le faire, on va s'organiser. Je pense à des gens comme John Cale ou plein de gens différents qui sont restés très longtemps dans le circuit en disant bon, je peux pas cette fois-ci, mais essayons de faire quelque chose. Ou Steve Hunter, le guitariste de Lou Reed, c'est des gens qui sont bon gré mal gré restés proches de ce personnage assez étonnant, honnêtement, qui est Henri.
Alors, qu'est-ce qui devient Henri Padovani?
Il refait sa maison.
Encore?
Il est dans la campagne. Il est du côté de Chartres. Vous savez, Henri, c'est un sacré personnage. Hein. Henri. Vous l'appelez pour lui demander une chose très précise sur tel ou tel artiste, telle ou telle relation, etc. Et vous finissez 27 minutes plus tard à parler de la cuisson des pâtes, de la façon dont on repeint un mur ou dont on fait la plomberie. C'est toujours comme ça. Donc Henri fait ça. Henri, parfois, il s'occupe de son jardin, parfois il s'occupe de ses escaliers. Et puis, au détour d'une pensée, il dit « Ah oui, effectivement, fallait que j'envoie le mail à Sting pour lui demander s'il pouvait ou il ne pouvait pas.
Bon. » Là, il a quand même travaillé sur une compile rock qui va sortir prochainement, pour les 40 ans du punk. Compile avec 80 morceaux, une sélection des meilleures chansons, des meilleurs groupes punk.
Mais votre but, c'est de le réhabiliter. Vous vous dites, cet homme n'est pas suffisamment connu, il faudrait qu'il le soit, c'est pour ça qu'on fait un film. Ou c'est pour rendre hommage à son esprit d'initiative. Ou encore, c'est juste pour parler d'une époque que vous auriez aimé connaître, c'est-à-dire le London des années 70-80.
Moi, personnellement, alors la réhabilitation, je sais pas trop, c'est pas quelque chose qui me traverse plus l'esprit, mais en revanche, raconter une histoire, évidemment, à travers cette histoire, raconter une période, une période musicale, raconter une période sociale, un mouvement citoyen, en tout cas essayer de toucher du doigt ces moments-là, c'est évidemment intéressant, mais c'est simplement, pour moi en tout cas, c'est simplement la possibilité de raconter une histoire assez étonnante, assez folle, d'un jeune mec de l'époque qui est inconnu du grand public et qui pourtant a traversé toute cette période, tous ces gens avec qui il reste en contact, avec qui c'est une relation continue, parce que simplement il a une espèce de bonhomie et une relation à l'autre, un altruisme. Il a quelque chose d'assez... finalement, quand on y pense, ce sont simplement des valeurs humaines assez normales, si je puis dire, entre guillemets. Mais en tout cas, voilà, quelque chose d'assez basique. Et aujourd'hui, on s'en étonne. Et donc, je pense que c'est important d'essayer de raconter ces histoires-là. Et en plus, c'est quelqu'un qui n'est pas connu du grand public. Et moi, je trouve que ça, c'est extraordinaire.
Henri Padovani, le personnage central de Rock and Roll of Course. Vous avez eu des problèmes avant de trouver un distributeur, puisque ce film, on l'a vu il y a 6 ans à Cannes, avec concerts, il y avait du monde et tout ça. Pourquoi? Ça n'intéresse plus personne?
Non, c'est
pas
ça.
Rock des années punk, c'est perdu d'avance maintenant.
On est parti dans ce film comme on part en tournée, sans se poser de questions sur comment on finance un film, comment on fait. Et donc, quand on a fait le montage, pareil, on a mis la bande-son qu'on avait vraiment envie d'avoir dans ce film, et on s'est pas soucié des droits, des droits musicaux et des droits d'archives, donc on s'est retrouvé un petit peu bloqué avec une addition qui commençait à s'élever de plus en plus. Donc c'est mon frère qui avait produit la première partie du film jusqu'à Cannes, et puis après on s'est retrouvé un peu bloqué, et il a fallu que cette partie-là financière soit enfin débloquée pour que le film puisse sortir. Donc ça a été la raison de ce petit trou entre 2010 et 2016.
Stéphane Bébert et Lionel Gage, les réalisateurs de Rock'n'Roll of Course, qui sort aujourd'hui. Merci d'être passé ce matin.
Merci à toi, Toufi.
Merci.
Demain, je serai avec François Bégodeau. Passez une belle matinée sur France Culture.